c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Sans doute de L'île aux enfants avec son personnage illustre, un dinosaure orange à pois jaunes et rouges, baptisé Casimir. Eh bien, c'est à lui qu'on pense lorsqu'on prononce ce prénom, tant il est vrai que son charme et sa gentillesse en ont fait un ami idéal pour tous. Mais c'est peut-être aussi votre prénom et dans ce cas, on vous souhaite une très très bonne fête car c'est la Saint-Casimir aujourd'hui. Bonne fête à vous et bonjour à tous, bien sûr. Et puis tenez, c'était hier la fête des grands-mères. Alors est-il trop tard pour les embrasser et leur dire qu'on les aime, n'est-ce pas les enfants ?
Moi, ma grand-mère, c'est un super héros.
Ah bon, elle a une cape ?
Non, elle a une canne et puis elle a des pouvoirs.
Waouh, la chance !
Salut les jeunes!
Ma grand-mère fête aujourd'hui ses 99 ans. Croyez-moi, elle a toute sa tête, elle a toutes ses dents. Elle parle de reprendre le sport, elle a su rester jeune. Elle explose tous les records à la PlayStation.
C'est la seule femme de son âge à faire ses courses en courant. Ses amis sont au cimetière depuis déjà bien longtemps. Grand-mère a repris les cours du soir à la Sorbonne. Elle croque dans la vie comme dans une pomme.
Super mamie, attention les secousses. Super mamie, tu nous enterres à tous.
C'est pas facile.
Ma grand-mère est très tendance pour une femme de son âge. Il faut pas se fier aux apparences, elle a quelques tatouages. Les gens qui disent qu'elle est folle sont des imbéciles. Tout ça parce qu'elle porte un petit piercing au nombril.
Elle sait marcher sur les mains, elle sait aussi construire des meubles. Tenir en respect les gros chiens, escalader les immeubles. À la cigarette, elle a dit stop.
Stop!
Ma grand-mère est une athlète, ma grand-mère c'est monsieur prof.
Super mamie, attention les secousses. Super mamie,
ma grand-mère fête aujourd'hui ses 141 ans.
Et moi j'ai plus toute ma tête, moi j'ai plus toutes mes dents.
Pour fêter ses nombreuses nominations au livre des records,
elle a fait 3 fois le tour du monde à pied. Elle court encore. Jusqu'où ira-t-elle?
On se pose la question.
Serait-elle éternelle?
Il faut se faire une raison. Elle joue du violoncelle
et résout des équations.
Son médecin,
docteur Michel,
a fait une dépression. Super mamie, attention les secousses. Super mamie, tu nous enterres à tous. Super mamie, attention les secousses. Super mamie,
y a des fois ça fout la frousse.
Super mamie,
on n'a pas le temps de dire ouf.
Super mamie,
ça c'est vrai
qu'elle a de la ressource.
Super mamie.
Non mais là, mamie, tu pousses.
Super mamie, tu nous enterreras.
Les garder très longtemps, nos super mamies. C'était Aldebert en compagnie de Clarica sur Radio Plus. Alors aujourd'hui, dans Saletant sur la planète, retour de Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature, avec qui nous parlerons des Hauts-de-France. Vous avez bien sûr tous eu connaissance des résultats de l'étude de l'Agence de Santé Publique France déclarant notre région la plus concernée par le nombre de nouveaux cas de cancer chaque année, alcool, tabac, surpoids, oui, mais est-ce que ce sont les seules raisons ? Ne pas fumer, manger mieux, mais aussi bio, éviter l'alcool, bouger plus et éviter la prise de poids, voilà quelques bonnes mesures de prévention au cancer. Manger bio et bouger plus. On peut faire les deux, bien sûr, en jardinant, par exemple. Et nous écouterons les conseils avisés de Bertrand Trinel pour avoir un beau jardin sans aucun produit phytosanitaire. Et puis, mesdames, cette semaine aura lieu, comme chaque année, la Journée internationale de la femme. Dans certains pays, elle a beaucoup d'importance, au Cameroun, par exemple. Et Michel Feguin, camerounais et enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille, nous dira pourquoi, à savoir qu'au Cameroun, les femmes sont marginalisées et occupent un rôle encore fortement domestique dans la société. Pourtant, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Malheureusement, il existe toujours des normes culturelles qui empêchent les femmes de recevoir un traitement égal. La suite donc avec Michel Feguin.
Prochain de tes yeux. l'été qui passe. Forme que je fixe dans l'éternel. Avant que le destin jaloux.
Nicole Croisy sur Radio Plus. Alors notre enquête dans l'air du temps, on parlait tout à l'heure des grands-mères. Selon une étude, ce qu'apprécient le plus les enfants, voire les jeunes, chez leur mamie, eh bien c'est qu'elle a du temps pour eux. La maminette parfaite, c'est aussi celle, attention, qui décrypte parfaitement que son ado de petit-fils rêve d'aller à un concert de rap, même s'il a eu 4 en maths, ou qu'il préfère un billet de 20 euros à un chèque cadeau culturel. Et puis elle est souvent celle qui permet d'accéder aux vêtements de marque, top top et trop cher, ou au dernier modèle de smartphone. Elle aide ses petits-enfants à briller au sein de leur tribu sans les juger. C'est de leur âge, dit-elle, bienveillante conclusion dont ils lui sont généralement très très reconnaissants.
Grand-maman gâteau est assise au fond de son fauteuil en pire. Grand-maman gâteau, aujourd'hui jeudi, a laissé son tricot près de la fenêtre. Charmant sourire, tout ça court bientôt. Embrasser les joues de grand-maman gâteau. Dis grand-maman, tu sais sans doute pourquoi les gens âgés toujours se tassent un peu et puis se voûtent. Mais oui, je le sais, mes amours. Vous pensez peut-être c'est le poids des ans, mais non, s'ils penchent, c'est pour être plus près de leurs petits-enfants. Grand-maman gâteau, avec ses bambins, fait de bonnes parties. Grand-maman gâteau, aime le jeu d'oie, la puce et le loto. Au gagnant, elle glisse des bonbons fameux, de miel ou de réglisse, qu'elle garde pour eux. Et si les petits ont eu tour à tour les dents qui sont parties, c'est pour avoir trop manger les bonbons de grand-maman gâteau. Dis grand-maman, dans ta jeunesse, allais-tu quelquefois au bal? Oui, mes enfants, je le confesse, et je ne dansais pas trop mal. Je brûlais de plaire au prince charmant, un prince, on raconte grand-mère, comme dans La Belle au bois dormant. Grand-maman gâteau connaît des récits, des contes de toutes sortes. Grand-maman gâteau, bouche bée, on l'écoute, on n'en perd pas un mot. Ensuite, elle chante de très vieux refrains, mais sa voix tremblante peu à peu s'éteint. Et les yeux mi-clos, tandis qu'elle s'endort doucement, les enfants sortent à jeudi tantôt. Faites de beaux rêves, grand-maman gâteau.
Lisette Jambel sur Radio Plus. Alors pas trop de gâteaux, attention, le sucre c'est à éviter, et peut-être pourrons-nous expliquer pourquoi d'ailleurs dans une prochaine émission. Mais pour l'heure, Jean-Louis, on le retrouve pour parler de la santé, mais pas pour mettre en évidence, enfin je veux dire, ou plutôt pour mettre en évidence un tout autre problème.
Ça danse sur la planète.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. L'Agence sanitaire santé publique
à Santé publique France, je précise, a publié sur son site une cartographie des cancers inédite sous la forme de 16 rapports régionaux. Alors elle dresse des premières estimations régionales et départementales de l'incidence et de la mortalité des cancers en France pour la période 2007 à 2016. Cette cartographie qui porte sur 23 types de cancers met en évidence de grandes disparités, des spécificités marquées selon les territoires. Et bien sûr, les Hauts-de-France sont globalement la région la plus touchée. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour Martine.
Oui, je bafouille ce matin.
Ah oui, oui, je crois que...
Alors, Jean-Louis, c'est un triste record que décrochent les Hauts-de-France. Il y a plus de cancers et de morts dus à cette maladie dans la région que dans le reste du pays, notamment pour les cancers liés au tabac et à l'alcool. Et cela est un fait avéré, Jean-Louis.
Oui, donc il faut savoir que l'enquête qui a été faite, donc elle se posait un certain nombre de questions, c'est-à-dire quelles sont les spécificités régionales et départementales, quels sont les principaux cancers par région, parce que derrière les grandes tendances nationales se cachent des disparités qui sont parfois importantes sur le territoire français. Donc c'est pourquoi le réseau français des registres des cancers, hein, c'est le réseau Francim, les services de biostatistique, bioinformatique des hôpitaux civils de Lyon, l'Institut national du cancer et de santé publique France ont publié pour la première fois des estimations d'incidence et de mortalité à une échelle régionale et départementale pour 24 cancers en France. Alors quand on lit, c'est pas très simple hein, parce que c'est beaucoup de statistiques très très pointues avec des indicateurs qui sont vraiment pas faciles à expliquer, mais quand même se dégage une tendance. Il faut savoir que l'incidence et la mortalité par cancer, ce sont des indicateurs épidémiologiques qui sont indispensables pour appréhender le poids de cette pathologie. Et donc, les estimations régionales et départementales par cancer font apparaître que la situation dans les Hauts-de-France n'est pas bonne, puisqu'on a une surincidence et une surmortalité par cancer. Alors, pour plusieurs cancers, l'œsophage, la lèvre, bouche, le pharynx, le côlon, rectum, dans les deux sexes, parce que l'étude distingue les deux sexes, pour la prostate, le poumon, le foie, la vessie chez l'homme, le sein chez la femme. Donc la surmortalité par cancer de la vessie et du foie touche aussi les femmes. Et donc les cancers du col et du corps utérin sont en surincidence, bien que la mortalité ne peut pas être analysée. On observe aussi une surmortalité par cancer du larynx. Et donc, on a quand même beaucoup une situation qui est quand même critique dans les Hauts-de-France vis-à-vis de beaucoup de cancers.
Mais justement, alors tabac, alcool, prise de poids, bon, donc on est bien d'accord, ces trois causes sont évoquées, bien entendu. Mais cela a fait bondir certains, Jean-Louis.
Oui, moi en particulier, le docteur Sarrazin aussi, parce qu'on a réagi surtout aux articles de presse locale, je ne citerai pas, mais bon, on connaît la presse locale, qui a fait, je crois, une lecture en diagonale des
voilà,
études.
Voilà, tout à fait.
Hein, et qui met en avant toujours les mêmes causes, à savoir le tabac. Bien entendu, le tabac, c'est quand même la première cause de cancer du poumon. Il ne faut pas tourner autour. Qui met l'alcool. Ah, bien entendu, l'alcool est responsable de nombreux cancers. L'obésité. Donc, quand on lit un petit peu. Quand on lit un petit peu le rapport en détail, on s'aperçoit que quand même il y a d'autres facteurs qui sont cités. Par exemple, pour le cancer du poumon, la pollution atmosphérique est un facteur de risque noté. Donc, puisqu'il est bien écrit dans le rapport, le principal facteur de risque est la consommation tabagique. Les facteurs professionnels comme l'exposition à l'amiante et environnementaux comme l'exposition au radon ou à la pollution atmosphérique sont également reconnus. Donc, Et il faut savoir que ce cancer est la plupart du temps encore diagnostiqué à un stade avancé. Donc ce qui fait qu'on peut avoir pour certains cancers une surincidence, et puis aussi on peut avoir une mortalité plus importante ou moins importante en fonction du temps de le diagnostic. Il y a aussi noté par exemple pour le cancer du foie, le chlorure de vinyle. Les perturbateurs endocriniens, les pesticides sont des facteurs de risque qui sont quand même bien notés. Hein, par exemple, sur le cancer de la prostate, c'est bien marqué que les seuls facteurs de risque avérés du cancer de la prostate sont individuels. Il s'agit de l'âge, de l'origine ethnique et des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Parmi les facteurs environnementaux, les perturbateurs endocriniens, du fait de leur capacité à interférer avec le système hormonal, sont considérés comme des facteurs de risque potentiels de plusieurs cancers, dont celui de la prostate. Mmh. Donc je veux dire que quand on regarde le rapport de plus en détail, on s'aperçoit que l'environnement a bien sa place.
Donc ça veut dire que finalement c'est la presse qui a mal relaté les choses, qui n'a pas pris tout le rapport en considération.
C'est une lecture, malheureusement, qui est une lecture en diagonale. C'est vrai qu'on voit arriver parmi tous les cancers, puisqu'on a dit qu'il y en avait 22, je crois. On voit bien entendu à chaque fois le problème du tabagisme, de l'alcool, de l'obésité, puisque c'est des facteurs quand même importants. Mais il faut quand même aller plus loin.
Voilà. C'était une lecture un petit peu réductrice. Voilà. Alors justement, l'Agence sanitaire Santé publique France a bien pris les facteurs environnementaux en considération. Pensez-vous, Jean-Louis, que nous soyons plus exposés que les autres aux méfaits de l'environnement, car finalement il y a pollution partout, mais c'est quand même notre région qui arrive en tête pour ce fléau. Donc finalement, ce qui fait la différence serait peut-être quand même alcool et tabac.
Oui.
Ou alors, on est plus exposé que les autres chez nous.
On est un peu. C'est vrai que il y a quand même l'aspect social qu'il faut prendre en compte. Puisqu'on travaille par région et par département, donc le niveau social est à prendre en considération. Après, les liens entre environnement et apparition de cancer, ça fait l'objet de nombreuses recherches. Hein. Il y en a certains qui sont prouvés, le radon, la pollution atmosphérique, les particules fines, l'exposition aux UV, certaines substances qui sont rencontrées en milieu professionnel. Et puis, il y a d'autres facteurs qui sont toujours en cours d'investigation. Mais l'impact est difficile à évaluer. D'après l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, au moins 19% des cas de cancer seraient attribuables chaque année à l'environnement. Alors pourquoi au moins ? Parce que l'évaluation du caractère d'un facteur physique, chimique ou biologique se fait au cas par cas et ça prend beaucoup de temps. Et puis en plus, il faut ajouter l'effet cocktail, qui est susceptible d'influencer la donne. Il faut savoir qu'un facteur environnemental seul peut être anodin, mais son caractère toxique est amplifié en présence d'autres facteurs environnementaux. Donc cet effet cocktail qui correspond pourtant à notre situation quotidienne n'est pas évalué. Et son influence sur l'apparition de la maladie non plus. Et puis, on en a parlé, il y a les perturbateurs endocriniens qui ont une influence sur le développement de certains types de cancers à l'âge adulte. Donc tout ça, c'est assez difficile de mesurer l'impact de l'environnement. Et c'est pour ça que, fortement, quand on parle de cancers liés à certains produits chimiques, on a toujours des contradicteurs et c'est difficile d'avoir des preuves formelles.
Tout à fait. Alors, on va conclure que finalement, le cancer est un mal de la modernité, finalement. Mais alors, par contre, Jean-Louis, dans cette enquête, il y a la Bretagne ou la Corse qui sont en bonne position aussi, n'est-ce pas ? Alors, oui. La Bretagne, on peut comprendre, mais la Corse ?
La Corse, alors faut savoir, faut quand même être vigilant quand même sur cette étude régionale, voire départementale. Pour de nombreuses localisations cancéreuses, les estimations en Corse vont être basées sur un faible nombre de cas de décès. Il faut tenir compte de la population. Et du fait de ces faibles effectifs, les incertitudes sont vraiment importantes. On a parce qu'on travaille en statistique toujours, et les intervalles de confiance sont très larges. Et donc, je pense que les résultats pour la Corse sont difficiles à étudier et à lui donner vraiment beaucoup de sens. Par contre, pour la Bretagne, eh bien, la situation est pas beaucoup meilleure que celle des Hauts-de-France. On a aussi des taux de cancer qui sont plus élevés qu'ailleurs. Mmh. Et donc, je pense que c'est une situation quand même aussi inquiétante que dans les Hauts-de-France.
Finalement, il faudrait revenir quand même, revenir à un mode de vie quand même un peu plus naturel.
Bah oui, c'est sûr que il y a un mode de vie. Il faudrait surtout avoir une prévention beaucoup plus efficace. On est un peu trop en France dans une politique de soins et pas assez de prévention pour la population. Hein, et donc on est quand même trop dans une logique de médecine. Et donc alors faut savoir qu'en France le décompte des cancers n'est effectué que pour 22% de la population.
Mmh.
Hein ? Faut savoir que le réseau ne couvre pas la totalité du territoire. Il s'appuie sur des registres de cancers dans certains départements, mais il y a quand même un nombre croissant de pays européens qui ouvrent des registres de cancer avec une couverture nationale. C'est pas le cas en France, hein, il faut quand même le dire. Faut savoir que la Belgique dispose depuis 2005 d'un registre de cancer performant. Hein. Et donc, le défi, c'était de rassembler pour l'ensemble du pays des chiffres complets et fiables. Il y en avait un en Flandre, il n'y en avait pas en Wallonie. Donc, la Belgique a réussi à avoir un registre complet de cancer, ce qui permet l'identification des risques, l'évaluation de la prévention, le dépistage, la qualité des soins. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. En France, bon, on voit encore apparaître, oui, c'est un peu coûteux, etc. Mais je pense que c'est quand même fondamental d'abord de s'attaquer aux risques.
Hein. Tout à fait. Donc, on a compris, Jean-Louis, que plus que jamais, il faut une politique ambitieuse de santé environnementale pour faire reculer l'épidémie mondiale de cancer, mais aussi de maladies chroniques comme l'Alzheimer, le Parkinson et bien d'autres.
Bah, tout à fait.
En tout cas, ça reste toujours très complexe. C'est-à-dire que, bon, beaucoup de facteurs interviennent et c'est vrai que pourquoi on attrape le cancer ?
Bah, le problème, c'est que la politique de prévention est nettement insuffisante et que on a des lanceurs d'alerte, je pense qu'il faut les écouter.
Voilà. Tout à fait.
C'est important parce que c'est là que commence la prévention.
Jean-Louis, merci.
Merci.
On vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine à vous.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Dans la nuit, les oiseaux perdent leurs plumes au clair de la lune. Les avions s'allument sur prairies, sur forêts, sur coccinelles, poussent des cancers cruels. La ville est nouvelle, elle est nouvelle. Le monde change de peau, sera-t-il laid ou bien beau, couvert de couleurs peinture ou de vert nature. Le monde change de peau. Sera-t-il doux et sucré comme la liberté? Qui joue quand les enfants s'amusent à mettre des pierres, des méduses sous leurs pieds? Dans les journaux et sur les ondes, on sent qu'un monde vient au monde, qu'il soit trop tard ou trop tôt, le monde change de peau. Le monde change de peau. Où sont-ils les petits jardins bucoliques, petite place de la République avec son kiosque à musique? Sous-préfet, tes jours de fête, saxophone et clarinette, ça sent l'amour, la nisette, oh ça sent la nisette. Le monde change de peau. Sera-t-il laid ou bien beau?
Alain Souchon sur Radio Plus. Et bien après cette chanson, il est tout naturel de se retourner vers Bertrand Trinel pour ses conseils de jardinage, jardin bucolique, regrettait Alain Souchon. Et bien il suffit de s'y remettre.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors on retombe un petit peu en enfance aujourd'hui avec la Saint-Casimir. Je me souviens même qu'il y a eu une bande dessinée qui était sortie, Casimir t'emmène au jardin. Alors vous voyez Bertrand, j'ai gardé mon âme d'enfant. Alors à présent, c'est vous qui nous emmenez au jardin. Quoique de ce temps-là, c'est pas... Hein, bon, ça donne pas vraiment envie, hein, mais bon, il y aura des jours meilleurs. Alors le dicton du jour de Casimir la douceur fait peur aux jardiniers et aux laboureurs. Trop de douceur, peut-être ces derniers temps, c'est vrai, on en a profité, mais vous aviez raison, l'hiver n'est pas fini, la preuve, car là nous revenons quand même à des températures de saison. Hein.
Oui, tout à fait, donc la vague de douceur et de soleil que nous avons eue, bah, avec cette belle luminosité, parce qu'on a une luminosité vraiment superbe, bah, nous a fait beaucoup de bien. Donc, mais seulement pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, c'était tout à fait le contraire, hein. On avait une grosse vague de froid. Bon, alors aujourd'hui, on est revenu à des températures un peu plus de saison, hein. Mais bien sûr, l'hiver n'est pas terminé. Je le dis souvent, mais l'hiver, tant qu'on n'a pas atteint la fin mars, même jusqu'au sein de glace, l'hiver n'est pas terminé. Donc on peut encore avoir pas mal de surprises.
En tout cas, je pense que la pluie va être à nouveau présente. Elle est bien présente depuis 2 jours. Alors on se console peut-être en disant que finalement, elle va arroser nos bulbeuses.
Alors, moi, je ne me console pas. La pluie est de nouveau présente et franchement c'est une bonne chose. Hein. Ne dit-on pas que l'eau c'est la vie. Donc un beau temps c'est pas un temps, c'est pas un beau soleil qui va briller en permanence. Hein. Bien sûr ça existe sur Terre, hein, dans le désert. Alors non, pour moi le beau temps c'est un temps qui change, qui alterne des périodes ensoleillées avec des périodes de pluie, de gel, de neige, etc. Bon, c'est vrai que quel que soit le temps, il y a toujours des mécontents. Et comme de toute façon on peut rien y faire, on peut rien changer, bah, prenons le temps qu'on y a. Et puis oui, un peu de pluie, bah, c'est profitable à nos bulbeuses.
Tout à fait. Alors justement Bertrand, pour parler des bulbeuses, on voit surgir plein de catalogues les mettant à l'honneur et nous incitant à les planter actuellement. Alors vos conseils Bertrand?
Alors effectivement, il s'agit de bulbes d'été. Hein. Ce sont les bulbes à floraison estivale. Les bulbes qui vont fleurir au printemps doivent être plantés à l'automne. Ceux qui vont fleurir cet été doivent être plantés au printemps, c'est simple. Alors il y a quand même un grand choix de bulbes en ce moment, hein, des dahlias, des glaïeuls, des canaux, il y a des lys, quoi d'autre, des frésias, des anémones, des concosmias, etc., etc. Donc vous pouvez les acheter pendant qu'il y a encore du choix, hein. Mais surtout, encore une fois, pas de précipitation. Pour leur plantation, certains devront même attendre la fin des cinq glaces, c'est-à-dire le 11, 12, 13 mai, après le 13 mai. Lorsque les gelées sont vraiment plus à craindre, hein. Par exemple les dahlias, par exemple ouais, les canaux, tout ça.
D'accord. Alors Bertrand, la semaine dernière, vous nous avez fait découvrir l'arbre à mouchoir. J'ai vu qu'il existait aussi un arbre à savon qui peut être intéressant, par exemple, pour ceux qui préservent leur environnement. Et c'est un arbre qui s'acclimate parfaitement à notre région.
Ouais, alors en fait, il existe même plusieurs arbres appelés arbres à savon. Le premier, c'est Sapindus macorosi. Il est bien connu des personnes qui emploient les fruits, ou plutôt ses coques, la coque des fruits, comme noix de lavage. Donc cet arbre est originaire de l'Inde. Et bien qu'il existe à peu près, il existe 2 spécimens au jardin botanique de Strasbourg. C'est vraiment pas un arbre indiqué chez nous, car il est vraiment pas rustique. Hein. En dessous de moins 4 degrés, bon, il va geler. Donc c'est pas celui dont vous parlez. Donc le second, celui dont vous parlez, je pense du moins, c'est le Curolteria paniculata. Et c'est en effet un arbre très rustique, bien adapté à nos régions. C'est un arbre vraiment très décoratif par son feuillage découpé, par son joli feuillage avec des belles couleurs d'automne. Et puis par ses nombreuses fleurs en grande panicule jaune qui vont recouvrir totalement l'arbre de fin juin à août. Là. Donc c'est un arbre qui appartient également à la famille des Sympadacées, hein, et qui regroupe les plantes à savon. Donc en Asie, on se sert de l'écorce et des fruits que contient de la saponine pour le shampoing. Et en Chine, on fait même des perles avec les graines. Bon, voilà. Donc il existe aussi d'autres plantes vivaces bien connues comme la saponaire. Alors si vous prenez les fleurs de saponaire entre vos mains, vous les froissez entre vos mains, vous avez l'impression de vous savonner. Il y a une production de mousse. Même, par exemple, la fleur du camélia, c'est pareil, vous prenez une fleur de camélia, vous la froissez entre vos mains, vous allez voir, il y a du savon qui sort de cette fleur.
D'accord. Alors justement, puisqu'on parle des arbres, à propos des arbres, Bertrand, une étude allemande vient de démontrer que le bois vivant perd en densité, sans doute sous l'action conjuguée du réchauffement climatique qui allonge leur activité annuelle et des pollutions à l'azote. Alors résultat, les arbres sont plus fragiles face aux tempêtes et stockent moins de CO2.
Alors c'est vrai, les bois durs comme le chêne, le hêtre, le charme ont une densité élevée, donc ils sont donc très résistants. Par contre, par exemple, comme le bouleau, le peuplier, le tilleul, ce sont des arbres à bois tendre, à leur densité moins élevée, donc ils vont être beaucoup moins résistants. Alors moi, je suis désolé parce que j'ai pas eu connaissance de cette étude allemande hein, dont vous me parlez là. Mais si c'est le cas, si la densité du bois vivant diminue, bah, c'est évident que nos arbres deviendront de plus en plus fragiles. Hein. Donc c'est encore un signe qui doit nous alerter et nous inciter à lutter contre la pollution. Mmh. Et vraiment, il faut de plus en plus qu'on fasse quelque chose et voilà, qu'on fasse quelque chose.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Surtout que là, bon, bah, en effet, on voit un petit peu, justement, il y a de plus en plus de tempêtes, de plus en plus de vent, et donc, c'est vrai que.
Oui, il y a deux choses. Le réchauffement climatique, c'est une chose. C'est sûr qu'on est en plein réchauffement climatique. On en a eu en l'an 1000 beaucoup plus important. Mmh. Mais la pollution, c'est une autre chose qui est beaucoup plus grave encore, même si ça amène le réchauffement climatique, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est beaucoup plus grave encore que le réchauffement climatique, je pense.
Tout à fait. Alors Bertrand, c'est le moment de planter l'échalote. L'échalote avec un seul T, hein, j'insiste, parce qu'on voit partout écrit échalote avec deux T. Un seul T, échalote.
Tout à fait. Alors, oui, certaines échalotes peuvent déjà être plantées en ce moment. Hein. Tout le monde connaît la longueur, hein, mais voilà, mais pas toutes. Alors je rappelle qu'on a la chance d'avoir quelques bonnes variétés d'échalotes régionales. Alors par exemple, il y a la Primalis, donc c'est des échalotes de par ici, hein, de la Primalis que l'on peut planter en février-mars. Donc maintenant, elle a une excellente saveur. Il y a aussi la Liska. Alors la Liska, tout le monde la connaît souvent sous le nom de polonaise ou d'échalote russe, hein, mais on n'a jamais pu vérifier qu'elle était vraiment originaire des pays de l'Est. Hein. C'est une appellation comme ça, mais bon. Et cette échalote va se planter plutôt après le 15 avril. Il faudra donc attendre le 15 avril. C'est une échalote qui conserve très longtemps. Mmh. Et puis, il y a une troisième variété régionale, c'est l'ardente. Alors, comme son nom l'indique, sa saveur est plutôt bien piquante. On la plante également après le 15 avril. Alors, pour rappel, pour planter l'échalote, pas de fumure fraîche, hein, surtout pas, avant de planter. Là, l'échalote, c'est une plante qui est peu exigeante. Elle a besoin, par contre, d'un sol bien meuble et surtout bien drainé. Donc, si votre sol est très argileux, vous allez devoir la planter sur but. Voilà.
D'accord. Alors, et puis bien sûr, Bertrand, on continue à nourrir nos oiseaux. Hein, et à cette époque de l'année, lorsqu'on a mis des nichoirs, on éprouve une grande satisfaction à les voir s'y installer. Et c'est le cas notamment pour les mésanges actuellement. Alors, j'ai pris connaissance d'un rapport, Bertrand, rapport scientifique, je précise, et non pour ou contre, qui affirme que la France détient le record de chasse des espèces menacées, ce qui est quand même difficilement concevable quand on sait que la plupart des chasseurs s'adonnent aux tirs de loisirs sur justement ces espèces en voie d'extinction. Je crois que ça doit vous faire bondir aussi, vous.
Alors oui, tout à fait. Donc, mais j'ai vous dire tout de suite, il faut surtout continuer à nourrir les oiseaux. Apportez-leur des nichoirs dans votre jardin. Mmh. Les oiseaux sont vraiment en voie de disparition. Et là aussi, c'est quelque chose qui devrait nous alerter, parce qu'on se demande ce qu'on va laisser aux générations futures. Hein. Mmh. Donc la biodiversité s'effondre littéralement. Hein, et c'est difficilement compréhensible qu'en France, on autorise encore le piégeage des oiseaux migrateurs. Que les chasseurs, par simple plaisir, tirent sur des espèces en voie d'extinction. Donc ça, c'est fortement condamnable. Hein, ça, c'est vrai, on peut pas, c'est inadmissible. Mais, en fait, c'est surtout l'habitat naturel aussi qui disparaît. On construit partout, on fait des nouvelles autoroutes et tout ça. Et quand il y a moins d'habitat pour les oiseaux, et ben forcément, les oiseaux disparaissent également. Donc, on est quasiment tous coupables et il est grand temps d'ouvrir les yeux et de faire quelque chose pour la nature. Quoi. Certains pays vont replanter des millions d'arbres. Mmh. Ben, je pense qu'on devrait tous en faire autant. Planter des arbres dans son jardin, planter des arbres dans la nature, refaire des actions de plantation un peu partout. Ça devient indispensable maintenant.
Tout à fait. Alors Bertrand Trinel, merci. Mais avant de nous séparer, pour vous, avez-vous une petite astuce à nous refiler ? S'il vous plaît, monsieur.
Écoutez, avec le printemps qui approche, là, les limaces vont réapparaître. Hein. Alors, comment s'en débarrasser ? Donc, on peut attirer les limaces avec des croquettes pour choix. Il paraît qu'elles adorent ça. Et bien sûr, on met quelques planches sur le sol à proximité. Les limaces vont faire leur festin des croquettes, vont aller se réfugier sous les planches. Et puis, au petit matin, il suffit d'aller les récupérer. Donc ça, c'est assez facile. Après, vous avez tous entendu parler qu'on enterre des bocaux avec de la bière dedans pour piéger les limaces. Donc, ce que les limaces aiment dans la bière, c'est la levure. Donc, c'est plus simple. Vous allez chercher de la levure de bière chez votre boulanger, vous la diluez dans l'eau et vous le mettez dans les bocaux enterrés. Et puis, vous allez détruire beaucoup plus de limaces qu'avec la bière. Et puis, il y a aussi une chose fort simple, hein, pour les jardins, c'est à l'automne. Vous laissez courir quelques poules dans votre jardin. Et puis, elles vont vous débarrasser beaucoup de, mais alors, de beaucoup, beaucoup de limaces, de larves et de tas de choses pour avoir un jardin vraiment intéressant au printemps sans prédateurs. Quoi, sans, voilà.
Tout à fait. Bon, qu'est-ce qu'elles vous ont fait, ces petites limaces? Quoi?
Elles vivent leur vie.
Bah, tout à fait. Enfin.
Tout à fait.
Bon, et puis, on rappelle, Bertrand, que l'Assemblée Générale de votre Association des Paysages et Jardins et des Hommes aura lieu le samedi 16 mars à 15h à la salle des fêtes d'Averskerk. Elle est ouverte à tous et c'est sans doute un bon moyen pour faire connaissance avec votre association et avec vous, Bertrand.
Oui, tout à fait. Donc, notre Assemblée Générale est ouverte à tous, comme toutes les Assemblées Générales, et j'invite tous ceux qui veulent venir à venir et puis à découvrir toutes nos activités. Donc, je rappelle, notre Assemblée Générale, c'est le 16 mars à 15h, c'est un samedi, dans la salle des fêtes d'Averskerk, rue du 11 novembre. Je serais vraiment très heureux de pouvoir discuter jardin avec vous, hein, franchement.
Tout à fait. Merci Bertrand, et on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et puis, tout de suite, chanson de saison, voyez-vous, avec Georges Moustaki et ses eaux de Mars. Merci Bertrand.
Allez, bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Au revoir.
De racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pique. Jacasse, c'est la verse qui verse, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à mon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour, le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, le corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un corbeau qui croise, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
Alain Souchon sur Radio Plus, c'est bien après cette chanson, il est tout naturel. Nous allons retrouver Michel Feguin. Eh oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce vendredi 8 mars, ce sera la journée internationale de la femme. Alors, c'est que le 8 mars, chaque année, c'est la journée internationale de la femme. Et c'est, cette journée est, comment dire, est célébrée par des groupes de femmes dans le monde entier. Et dans certains pays, c'est un jour de fête nationale. Depuis 2017, cette journée a pris une dimension mondiale dans les pays développés comme dans les pays en développement. Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement, c'est le thème de cette année. Un thème qui peut laisser dubitatif quand on sait que les femmes de tous les continents, souvent divisées par les frontières nationales et par des différences ethniques, linguistiques, culturelles, économiques et politiques, voient en cette journée un espoir tout simplement d'égalité, de justice, de paix, de développement. Dans certains pays, les femmes sont marginalisées et occupent un rôle encore fortement domestique dans la société. Le Cameroun, par exemple. Michel Feguin, bonjour.
Bonjour, chère Martine Dittet. Bonjour et merci pour votre invitation.
Alors, vous êtes enseignant chercheur à l'Université catholique de Lille et vous êtes d'origine camerounaise. Alors, Michel, au Cameroun, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Dans le principe, c'est peut-être vrai, mais la réalité, ou si vous le voulez, la pratique n'est-elle pas tout autre ?
Oui, dans votre propos liminaire, vous avez parlé de femmes qui seraient marginalisées et occupent un rôle fortement domestique dans la société, en citant le cas du Cameroun. Qu'il me soit permis de dire que cette observation fort juste peut bien s'appliquer ici en France, comme dans tout autre pays d'ailleurs. Il me suffit simplement de rappeler maladroitement le propos tenu par le ministre de l'économie Emmanuel Macron en 2014 lorsqu'il avait parlé des salariés illettrés en se référant aux femmes de la société GAD. Vous voyez bien que la différence entre les femmes camerounaises et les femmes en France serait simplement que les femmes en France seraient salariées pendant que l'illettrisme les caractérise. C'est pour dire simplement que l'inégalité qui frappe les femmes au Cameroun est quelque chose qui tient du système patriarcal. Et c'est contre cela qu'il faut lutter. Remarquez d'ailleurs qu'il y a 46 ans que la France a légiféré sur l'égalité des salaires hommes-femmes. Combien de femmes avez-vous à la tête des entreprises du CAC 40 ? Aucune. Il en va de même pour le Cameroun. Celles que vous y trouverez, par exemple, dans les grandes sociétés, ne le seraient pas par leur mérite. C'est bien qu'il y a un problème et qu'on néglige ici l'apport bénéfique que pourrait apporter l'activité de l'agence féminine.
Alors, au Cameroun, justement, les filles peuvent-elles recevoir une éducation au même titre que les garçons ?
Oui, au Cameroun, comme dans tous les pays africains, les filles et les garçons reçoivent bien une éducation. Le schéma éducationnel de l'enfant avant l'arrivée de la colonisation est toujours en vigueur. Il est méconnu pour des raisons évidentes que je ne vais pas évoquer ici. Dans son ouvrage, par exemple, intitulé « Aspects de la civilisation africaine », Amadou Ampateba fait un rappel du système éducatif du garçon et de la fille dans les sociétés africaines. Je le conseille à vos éditeurs. Si d'aventure ils veulent apprendre plus à ce sujet. Il n'y a pas en Afrique un enfant sans éducation. Maintenant, si vous voulez parler de l'accès à l'instruction, c'est un autre sujet. Bien évidemment, il est triste de constater que la jeune fille va être poussée à se marier dès 15, 16, 17, 18, 20 ans, alors que le jeune garçon sera soutenu pour suivre des études. Dans un système où la médiocrité n'est pas questionnée, la première victime est celle qui souffre déjà de marginalisation dans les systèmes où le mérite est un fait. Ici encore, c'est toujours la femme, la jeune fille qui souffre du délaissement. Dans les faits, c'est la jeune fille qui va jouer le rôle, très tôt, je dirais même trop tôt, de la mère pour ce qui est des tâches ménagères. La mauvaise répartition des centres éducatifs sur le territoire, des zones enclavées, l'extension constante et très souvent galopante du chômage oblige très souvent des familles à privilégier la scolarisation du jeune garçon que celle de la jeune fille. Et au fond, il ne suffit pas de le dire, car ce constat est à la portée du premier venu. Il faut insister sur le fait que c'est la structure même de la société patriarcale qui conditionne l'humanité à cette inégalité. Je ne peux jamais m'empêcher de faire un parallèle entre les réalités des pays francophones et la France, car les histoires de ces contrées géographiques sont liées. En effet, aujourd'hui, on parle de la féminisation des noms des métiers. Bien que ceci suscite un intérêt sur le plan de la valorisation de la femme, il faut reconnaître que l'absence des noms féminins de métiers est la conséquence de l'exclusion et du rejet de la femme du monde du travail. C'est en 1630 que l'on a décidé d'exclure la femme de certains domaines valorisants de l'activité humaine. Si l'on veut vraiment parler d'égalité femme-homme, je propose que l'on ne parle plus de féminisation des noms des métiers, mais plutôt de lexicalisation équitable de nos langues, notre grammaire, nos lexiques. Et au-delà, la non-féminisation ou bien la féminisation des noms ne suffit pas. À compétences égales, le salaire doit suivre, peu importe le sexe.
D'accord. Alors, mais justement, vous nous aviez parlé de mariage. La jeune fille est très très vite là, parce que la jeune fille qui est mariée dès l'âge de 15 ans. Alors, est-ce qu'il est vrai que les maris ont des droits disciplinaires sur leurs épouses? Est-ce qu'il y a des lois contre les violences domestiques?
Oh oui, madame, oui, là, je crois que vous citez, par exemple, le rapport de l'UNICEF, n'est-ce pas, qui fait état de 30% des femmes, des filles camerounaises qui seraient mariées dès l'âge de 15 ans. Ce que l'UNICEF, par exemple, ne dit pas, c'est que le Cameroun est un pays où le respect de la loi tient du miracle. Et donc, les lois humaines, et notamment... celles des femmes sont bafouées.
Mais alors justement, est-ce que si la femme accédait davantage à une carrière politique, est-ce que ça ne pourrait pas faire changer les choses, Michel Feugain?
Oui, si elle accédait à une carrière politique, bien évidemment que ça changerait les choses, et pas simplement au Cameroun d'ailleurs, parce que voyez-vous, les guerres que l'on a connues et celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, maintenant on parle de guerre propre, donc on ne peut pas facilement en parler parce qu'aujourd'hui c'est devenu des frappes chirurgicales par des drones, etc. Ce ne sont pas les femmes qui sont aux commandes, hein, ce sont les hommes. Et bien souvent, elles ne sont pas consultées, leur point de vue ne compte pas, justement parce qu'on estime qu'elle n'a pas son mot à dire. Et au Cameroun, ceci est un fait. Remarquez par exemple que sur environ 56 députés, on a 56 députés au Cameroun pour 180 députés. Sur 180 députés, vous voyez, il y a 12 sénatrices sur 100 sénateurs. Il y a 12 sénatrices sur les 100 sénateurs que compte le Cameroun. Donc, le rôle politique de la femme est diminué justement parce que ce sont les hommes qui s'accaparent tout.
Tout à fait. D'accord. Alors, vous pensez que cette journée internationale de la femme se justifie au Cameroun?
Oui, pas simplement au Cameroun. Moi, je pense que... alors, parler d'une journée internationale de la femme, je trouve un peu que c'est réducteur, parce que tous les jours sont les journées pour les femmes, pour les hommes également. J'ai envie de dire que... Alors, pour parler vraiment, pour que vous essayiez de voir, d'avoir un aperçu global sur ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, j'ai interrogé des femmes d'actrices politiques, de femmes de pouvoir, pour essayer d'avoir leur avis avant de passer sur votre antenne. Et les plus radicales d'elles disaient par exemple que cette journée devrait disparaître du Cameroun. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on tire sur les femmes avec enfants dans le dos. Vous avez des femmes qui sont retenues prisonnières dans des centres hospitaliers simplement parce qu'elles n'ont pas d'argent pour payer les soins après avoir accouché, vous comprenez? Donc on a par exemple le cas de Monique Koumateke qui est venue à l'hôpital Lakantini de Douala où je suis né pour mettre au monde des jumeaux. Elle arrive là, il faut passer par une césarienne. N'ayant pas 20 000 francs, c'est-à-dire 30 €, ben on ne l'a pas suivi. On l'a exclu de l'hôpital. Et c'est comme ça que cette femme est décédée. Sa sœur a dû ouvrir son ventre avec une lame de rasoir. D'accord. Pour extraire les enfants qui sont décédés, vous comprenez? Donc le droit des femmes est bafoué au Cameroun.
Tout à fait. Vous avez encore beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on vous retrouvera assez vite sur cette antenne, Michel Feugain. En tout cas, merci à vous. Et puis voilà, l'émission se termine. Merci à vous et tout de suite à suivre Kaléidoscope. Merci Michel.
Merci beaucoup. À bientôt.